PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous, bienvenue pour le 29e épisode de la saison 5 de Vue du Banc. Un épisode qui sera consacré au premier 8e de finale, 8e de finale aller de Ligue des Champions disputé cette semaine, ainsi que le match entre Rennes et le Betis en Ligue Europa. Pour cet épisode, malheureusement pas de Raphaël, n'hésitez pas à lui faire remarquer sur Twitter qu'il commence à se faire un petit peu désirer. Nous sommes à deux avec Florent Tonuti de Chronique Tactique, salut Florent.
Salut.
Et nous sommes en personne dans mon studio lillois que représente mon appartement pour débriefer donc... on va pas débriefer intégralement les 8e de Ligue des Champions parce qu'on n'a pas vu le match entre la Roma et Porto. Donc on a juste vu un résumé avec les buts, etc. Donc on va éviter d'en parler. On va bien sûr focaliser la plupart de notre attention sur la réception du PSG par Manchester.
Oui.
Florent, on va pas dire que la qualification est faite, mais en tout cas c'est plutôt bien parti pour les Parisiens. Finalement, on n'est pas toujours bon sur ça historiquement, mais là pour le coup notre preview, notre présentation d'il y a quelques jours était plutôt fidèle à ce qui s'est passé. On s'était pas trop trompé.
Ouais, plutôt dans le vrai, notamment sur la nécessité qu'avaient les Parisiens d'avoir du contrôle sur ce match et d'avoir la maîtrise, parce que sur des séquences placées, que ce soit attaque ou défense placée, dans les deux cas ils étaient largement meilleurs que Manchester. Et du coup, les Parisiens, on a vu d'ailleurs en début de match que Manchester a essayé d'emballer la rencontre très vite en essayant d'aller presser Paris. Et malheureusement pour eux ensuite, et heureusement pour le PSG, on a vite vu qu'en termes de calme et de contrôle, le retour de Verratti dans l'équipe a permis à Paris de se sortir, de se tirer de ce bon début de match de Manchester, de ce rythme on va dire, et ensuite de décider de quoi faire dans ce match. Et les Parisiens ont maîtrisé de la première à la dernière minute. En première mi-temps, il leur manquait un petit peu de justesse dans les 30 derniers mètres. Et puis en deuxième, le fait de marquer très vite et surtout de mettre le deuxième aussi très rapidement les a permis de contrôler le reste de leur rencontre.
Finalement, la plus grosse réussite de Tuchel sur ce match-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais c'est d'avoir su contrôler le rythme de la rencontre, parce que ça aurait pu partir dans un but à but. Où là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'équipe qui maîtrise et chacune a sa chance... tour à tour.
Et puis sur du but à but, c'est ce qu'on avait dit dans la preview, c'était peut-être le seul moyen pour Manchester de rivaliser en fait, parce que c'est là où leur talent individuel qu'ils ont quand même devant malgré tout avec Martial, avec Rashford, avec Pogba, c'est des mecs qui sur du but à but et un match qui part dans tous les sens peuvent rivaliser avec un PSG où tu avais Mbappé, Di Maria, Draxler en face quoi. Voilà.
Et puis c'est vrai que là tu citais les individualités. Pour le coup, ça, on l'avait dit avant. Ok, il y a Pogba, mais on imaginait la possibilité qu'il soit pris en individuel par Marquinhos. C'est plutôt ce qui s'est passé. Mais ensuite, Matic, Herrera. Bon, si en plus t'as le retour de Verratti de l'autre côté, tu peux beaucoup plus facilement gagner cette bataille du contrôle face à une équipe pareille.
Oui, et puis là, on a parlé du milieu et derrière, on peut parler de la défense aussi, où la défense parisienne a été supérieure en tout point, même si Kimpembe aurait pu. Peut-être sortir prématurément en début de deuxième mi-temps. Mais quand tu vois le match que fait Thiago Silva à côté, où il a été dominant dans tout ce qu'il a fait, et quand tu compares avec Bailly, Lindelof sur le deuxième but parisien, par exemple, le but de Mbappé, il y a quand même, on parle pas de la même classe de joueurs et ni de la même classe d'équipe au final.
C'est ça qui est assez amusant, c'est que maintenant, après coup, victoire du PSG 2-0, on se dit « ouais, il y a un écart de talent ». Et pour le coup, il y avait beaucoup d'incertitudes avant la rencontre, alors notamment des supporters parisiens qui, je pense, ont été aussi un peu vaccinés par leurs échecs et du coup sont un peu plus prudents. Mais là, tu dis, ah ouais, en fait, même sans Neymar, par exemple, il y avait quand même un écart intrinsèque.
Oui, on a constaté qu'il y avait un écart. Après, il y avait la dynamique nouvelle de Manchester qui posait quelques questions et qui pouvait imaginer un match plus compliqué qu'il y a quelques temps au moment du tirage au sort. Quand tu vois le début de match et quand tu vois aussi les derniers matchs qu'avait fait Manchester en championnat, tu voyais, je crois que c'était un nul face à Burnley où ils ont laissé filer des points, tu voyais que face à Leicester ça gagne, mais ça se fait bien bouger, notamment sur les séquences où de défense placée.
Il y a Tottenham aussi
où Derrière fait des exploits, ouais. Donc c'est vrai qu'il y avait, malgré la très bonne série, en termes de contenu, il y avait quand même pas mal de choses à redire, de choses à corriger pour encore améliorer l'équipe, quoi. Mais bon, c'est une équipe qui est en reconstruction complète. Il faudra voir ce qu'ils feront ensuite pendant l'été pour aller plus loin, quoi.
Est-ce que un match comme ça sur la capacité de Paris à vraiment imposer son style, imposer ses forces? Alors on n'y est pas encore, hein, mais ça te donne confiance pour pourquoi pas taper une super équipe si tu te dis que tu joues de la même manière, sauf que tu intègres Neymar dans ton animation offensive. Est-ce que ce contrôle-là au milieu, tu te dis que c'est lié à la faiblesse de Manchester qui pouvait se retrouver coupé en deux et qui n'avait pas forcément le personnel? Ou alors ça peut se transposer si tu arrives face à un milieu encore plus compétent comme celui du Real ou autre?
En fait, on en parlait avec Marcus lundi, podcast à réécouter si vous le voulez sur Thomas Tuchel. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce qu'a fait Paris, c'est qu'en effet, ils ont eu du contrôle, ils ont eu beaucoup de calme au milieu de terrain pour tenir le ballon, tenir le contrôle du match. Mais ils ont aussi été très bons, par exemple, sur défense placée, où ils ont quasiment tout contrôlé. Tout à l'heure, tu parlais de l'individuel de Marquinhos sur Pogba. Elle a fait qu'on a quasiment pas vu Pogba du match jusqu'à son carton rouge à la fin. Et le fait est que c'est un match qui prouve une fois de plus ce qu'on disait avec Marcus lundi, c'est que Tuchel est un coach pragmatique qui s'adapte, qui est capable de parfaitement préparer ses équipes pour des rendez-vous particuliers. Et c'est surtout sur ce point-là que ce match est intéressant parce que ça confirme cette qualité-là chez Tuchel. Cette capacité d'adaptation, et c'est justement ce qui manquait au PSG les saisons précédentes en Ligue des Champions, puisque à partir du moment où ils n'avaient plus justement ce contrôle au milieu, bien ils n'étaient pas bons sur les autres phases de jeu, ils n'arrivaient pas à faire du but à but, ils n'arrivaient pas à défendre bas sans le ballon. Là, avec Tuchel, on a l'impression que pour chaque match, ils sont capables de préparer des séquences, et les séquences qui seront les plus importantes. Et du coup, ben voilà, sur ce match aller, ça s'est vérifié, sans Neymar en plus. Qui lui sera, même s'il est au cœur du système, dans les matchs de Ligue des Champions, c'est surtout une arme offensive supplémentaire et un atout individuel capable de faire la différence sur une passe, un dribble ou un tir, quoi.
Si tu veux, là où je te posais la question, c'est aussi dans ce que tu disais, le rapport au marquage sur Pogba. C'est que si tu arrives face à Tottenham, par exemple, même si tu as Marquinhos qui ferait un super boulot sur Eriksen, derrière tu as Sissoko qui ferait des runs qui percuteraient non-stop, et là Verratti, par exemple, pourrait pas le stopper. Donc c'est-à-dire que la caractéristique du milieu de Manchester fait que tu pouvais en gros cibler un joueur pour casser quasiment toute l'animation, pas complètement, mais en tout cas vraiment, vraiment réduire l'expression de cette équipe. Et j'ai pas beaucoup d'exemples en tête d'équipes que tu pourrais affronter en quart de finale, ensuite en demi, en finale, qui
Oui, où
pourraient
t'as qu'un mec à
présenter,
bloquer.
c'est ça, qui pourraient présenter les mêmes caractéristiques. Ça veut pas dire que ça fonctionnerait pas, mais disons, c'est difficile d'imaginer que tu puisses vraiment transposer le côté, bon, il y a Marquinhos qui, entre guillemets, détruit, parce que finalement, il a pas fait que ça. Avec la balle, il a montré des choses assez intéressantes. Et ensuite, Verratti qui se charge de bonifier les ballons et d'animer ton jeu calmement.
Oui, bah, après tout dépendra du tirage et de l'équipe derrière. Face à Liverpool sur la phase de poule, ils avaient montré aussi une capacité à éviter le pressing de Liverpool. Face à Naples aussi, d'un match à l'autre, ils avaient pris la flotte à l'aller et au retour, ils avaient fait une très bonne première mi-temps notamment, avant de couler en deuxième, justement face à une équipe du Napoli qui mettait beaucoup de pression et qui les mettait en grande difficulté pour ressortir les ballons. Donc on verra ce qui se passera en quart. Après, c'est vrai que Manchester, au final, c'est ce que disait Wenger, je crois, à la mi-temps, où il avait d'ailleurs un petit peu annoncé la suite du match, quand il était intervenu, c'était chez Bein, il me
Oui.
semble. C'était Bein, je ne sais pas de
US, il me
quel
semble, mais je
pays.
suis même pas.
Mais en tout cas, oui, en gros, ils ont bloqué Pogba. Après, c'est vrai que à partir du moment où tu te retrouverais face à un milieu où tu aurais deux joueurs à bloquer au lieu d'un, ça serait peut-être plus compliqué pour un Verratti. Après, Verratti revenait aussi de blessure. Mais c'est vrai que sur ce match-là face à Manchester, on a vu sur certaines séquences où Marquinhos allait chercher Pogba très très loin, très très haut sur le terrain parfois. Ce qui était intéressant de voir, c'est que ça créait en effet des espaces dans le système parisien. Mais il n'y avait aucun joueur de United qui se plaçait dans ces zones-là. Lingard est passé, je trouve, un peu à côté de sa première mi-temps. Martial aussi, on l'a pas vu, mais Martial n'est pas un joueur qui va repiquer entre les lignes, il va rester sur son aile. Mais Lingard aurait pu tenir ce rôle, et c'est vrai qu'on l'a pas du tout vu dans ce registre-là, en tout cas en première mi-temps. Et d'ailleurs, ça m'a pas surpris à la pause de voir Sanchez et Mata rentrer, parce que ce sont deux joueurs justement qui aiment bien rentrer entre les lignes et qui auraient pu occuper ces espaces. Ça aurait pu changer quelque chose tactiquement, je pense, à la rencontre, mais au final, les deux buts inscrits coup sur coup ont un petit peu mis fin au suspense et mis fin, on va dire, à cette expérience-là, quoi.
C'est vrai que même si Lingard sort sur blessure, sa première période n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer, alors même si c'était dans un style un peu différent. Par exemple, avec l'Angleterre, il arrivait bien à se placer entre lignes. Alors, c'était plus sur des seconds ballons, ou c'était pas toujours les mêmes constructions de jeu. Mais logiquement, ça fait partie, dans l'effectif de Manchester, de ces joueurs qui sont le plus à même de décrocher, de se retrouver un peu animateur dans une position axiale, plutôt que uniquement joueur de côté. Tu citais Mata Sanchez. Mata, c'est quand même plus la fin que le début, et Sanchez, là, ça devient très compliqué. Ça a toujours été compliqué depuis qu'il est arrivé à Manchester, où on se demande s'il a finalement été pris pour renforcer Manchester ou pour pas que City se renforce. Mais sur ce que je voulais t'interroger aussi, c'est l'animation offensive du PSG. On a beaucoup parlé de la façon dont Paris a bloqué Manchester et a réussi à avoir le contrôle. La manière dont sont faites les différences, est-ce que tu penses qu'avec Neymar, il aurait fallu totalement repenser le truc, ou alors t'aurais simplement remplacé un joueur à un 7 sur 10 par un 9 sur 10 et tu peux faire exactement la même chose?
Je pense que tu peux faire exactement la même chose. Il aurait eu le rôle de Draxler, sans doute, à se déplacer entre lignes. Alors, ils n'ont pas les mêmes zones. Neymar aurait peut-être plus traîné dans la zone où était Di Maria, pour le coup. Mais c'est vrai que ce rôle-là entre les lignes, on l'a déjà vu de toute façon avec le PSG de la part de Neymar. Il aurait peut-être apporté plus de lucidité dans la dernière passe et dans le dernier geste. Il aurait peut-être permis à Paris, dans les mêmes situations, dans le même rapport de force, de faire la différence sans doute plutôt dans le match et dès la première mi-temps, par exemple. Je pense que c'est ce qu'on peut imaginer s'il avait été là.
Et au niveau du travail défensif, alors même si c'est pas l'investissement défensif de Draxler qui fait basculer ce match, forcément c'est pas exactement la même façon de procéder. Pour toi, le fait de, entre guillemets, tuer Pogba fait qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un... Enfin, qu'un Neymar, ça aurait fonctionné aussi parce que t'étais pas en...
Bah, en fait, Pogba, ils l'ont... Marquinhos l'a pris, mais évidemment, il va pas le prendre 90 minutes. Il y avait des séquences où il était parfois loin. Et il y a toujours une aide qui arrivait. Alors, généralement, c'est Daniel Alves. D'ailleurs, le deuxième but, c'est une prise à deux... Alves et Marquinhos sur lui. Mais il y a aussi Draxler qui, notamment sur des séquences où Paris est plus haut, qui des fois fait l'effort d'aller chercher Pogba et de revenir. Donc je pense qu'il l'aurait fait. D'ailleurs, Neymar avait quand même été déjà responsabilisé, je crois que c'est face à Naples ou face à Liverpool, je ne sais plus. Mais il se retrouve à défendre, c'est lui qui se retrouve à défendre côté, et Mbappé qui est déchargé du travail défensif.
Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à un peu stéréotyper, enfin à dire ouais, Neymar va jamais défendre. C'est sûr que ça sera jamais Dirk Kuyt dans l'investissement défensif, mais tenir un couloir, bon là c'est un peu différent, position ouais, axiale, etc. Tu dois peut-être plus redescendre, mais tenir un couloir, ça, il sait le faire.
Il a déjà
faut
fait.
Faut juste le motiver à le faire, quoi.
C'est ça. Et a priori, à ce niveau-là, en termes de relations avec le coach et tout, pour l'instant, les choses se passent bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'il... Enfin, il n'y avait aucune raison pour qu'il ne le fasse pas s'il avait pu jouer ce match. Après, se pose une autre question, mais je l'ai oubliée, donc on va pouvoir passer à autre chose, en fait.
Daniel Alves dans cette position-là, c'est vraiment faute de mieux, ou t'imagines qu'avec si Cavani est là et que du coup bah tu te retrouves avec Cavani, tu t'es obligé d'aligner Cavani en pointe et de remettre Mbappé sur le côté, ou alors dans cette configuration-là, ça peut être tout à fait, parce que en fait ça ressemble au début à un peu une sorte de bricolage, même si tu vois pourquoi il le fait, c'est-à-dire c'est pas non plus scandaleux à mettre des joueurs pas du tout à leur poste. Et ça fonctionne bien, mais tu te dis, tiens, ça fonctionne presque peut-être mieux que si tu avais fait la formule classique, en tout cas dans ce contexte-ci.
Ouais, après Alves, dans cette situation, je pense aussi qu'au-delà de l'aspect tactique, de la position qu'il va avoir, je pense qu'il joue pour l'expérience et pour le calme qu'il apporte, parce que sur certaines séquences, notamment quand ça prenait la pression, etc., en début de match, il a été un de ceux qui ont un petit peu aussi montré la voie avec Marquinhos, Verratti. Et puis, en termes de relais, s'il faut trouver un relais côté pour le milieu qui prend la pression, qui s'appuie sur un mec, si c'est Alves qui doit faire juste une petite remise à l'intérieur vers le milieu qui s'est projeté un petit peu pour aller dans un espace, c'est quelqu'un quand même d'assez fiable à ce niveau. Après, il faut évidemment que défensivement il soit un petit peu protégé. Et là, pour le coup, c'était pas lui le latéral. Il jouait plus haut. C'est Kerrer qui s'est occupé de Martial. Ils assuraient des prises à deux. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc je pense qu'au-delà de l'aspect tactique, Alves joue ses matchs aussi pour son vécu, son expérience et je pense l'apport mental qu'il peut avoir sur ses partenaires à ce niveau-là, quoi.
C'est sûr qu'entre le charisme et la sérénité de Buffon, qui même s'il a, mmh, il a un vrai bon palmarès, mais il n'a pas non plus tout gagné, notamment pas la Ligue des Champions, mais tu sens une certaine sérénité qui se dégage même sur des interventions totalement bidons, sur des balles aériennes, tu sens qu'il dégage quelque chose, et dans les discours. Et puis Daniel Alves, qui est peut-être, je crois que c'est le plus gros palmarès du football mondial en termes de trophées en club, Donc ça, c'est sûr que forcément, ça peut changer une équipe. Du coup, là, sur l'intégration, notamment, enfin, la réintégration de Verratti post-blessure, peut... Alors, je sais pas si c'est un débat intéressant, mais peut se poser la question de savoir si Verratti est pas le joueur le plus important du PSG. Est-ce que pour toi, c'est une fausse question, parce que ça a toujours été plus ou moins le cas, vu la manière dont tu as construit cette équipe? Ou alors ce match-là fait quand même office de rappel de se dire, ah oui, on a peut-être oublié ce que pouvait être Verratti, mais faut... oui, Verratti, c'est ça, effectivement, c'est peut-être le joueur qui est le plus important, parce que simplement, de par sa position au milieu, bah, c'est lui qui va te permettre d'avoir le contrôle, alors qu'un attaquant, s'il n'est jamais servi, il pourra pas servir à quelque chose.
Il y a, oui, et surtout à côté, le fait qu'il n'y a aucun autre milieu, enfin jusqu'à l'arrivée de Paredes, il n'y avait aucun autre milieu avec ce profil-là. Donc c'est sûr que quand tu veux avoir une équipe comme Tuchel l'a construite, où il faut que les milieux réussissent à sortir les ballons, pouvoir trouver Neymar entre les lignes, trouver Neymar dans de bonnes positions pour qu'il puisse accélérer et être au final le joueur qui est la cible, mais une fois que le décalage est créé par les milieux, quoi. Du coup, après, il a juste à aller attaquer la défense, enfin, juste à. C'est son taf derrière, quoi. Donc, c'est sûr qu'un joueur comme Verratti est indispensable. Ce qui va être intéressant de voir, c'est l'intégration de Paredes. Est-ce qu'ils vont être associés? Est-ce qu'il va devenir simplement sa doublure pour permettre à Verratti de traverser des périodes compliquées avec ses blessures qui reviennent assez souvent quand même ces derniers temps? Donc est-ce que Paredes a été pris pour être associé à Verratti ou pour être le mec qui permettra de continuer à jouer de la même façon quand Verratti sera pas là ou quand il faudra le faire souffler, quoi?
Sachant que si tu fais jouer Paredes et Verratti, faut absolument un pressing à la perte
Oui.
énorme pour pouvoir
Les deux ensemble, ouais.
assez vite récupérer la balle, et t'es obligé de mettre quand même un troisième milieu qui va plus bosser. Parce que même si Paredes n'est pas Xabi Alonso de fin de carrière, il couvre quand même pas une zone incroyable. Associé à Verratti, c'est bien, mais quand t'arriveras face à, enfin, je citais Sissoko tout à l'heure, c'est tout bête, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais il va faire tellement de courses vers l'avant en puissance, etc., que si t'as personne pour le stopper, ça peut vite être embêtant avec les joueurs techniques autour de lui qui pourraient profiter de ça.
Ouais.
Rien à dire d'autre sur ce match-là. Est-ce que tu crois aux chances de Manchester d'inverser la donne? Est-ce qu'il y a une solution qui n'aurait pas été exploitée? Pas, par exemple, partir sur un truc assez basique, assez primaire, hein, mais de jeu long sur Lukaku. Bon, surtout là, maintenant, t'as plus Fellaini. Est-ce qu'il existe une possibilité d'inverser en dehors de, bah, il y a un but et ça déroule, etc., mais un truc un peu atactique? Mais
Bah, si Paris a le même contrôle sur le retour, je pense que l'affaire est réglée. Après, c'est vrai que United peut peut-être partir sur. De toute façon, sans Pogba en plus, puisqu'il sera suspendu pour le match retour. Donc ça va encore plus compliquer les choses pour eux pour ressortir les ballons, et pour construire, et pour progresser au milieu de terrain. Du coup, ta solution, le long ballon sur Lukaku et des mecs qui courent sur les deuxièmes ballons, je serais pas surpris qu'au final on voit quelque chose qui ressemble à ça. Le problème, c'est que cette manière de jouer-là, c'est pas dans les habitudes de Manchester, d'un côté, et de l'autre côté, cette manière de jouer. Elle t'oblige dans le match, elle te garantit en tout cas que tu auras des temps faibles. Et du coup, sur ces temps faibles-là, Paris aura le ballon, aura le contrôle et aura sans doute des situations pour marquer, puisque on l'a vu, la défense placée d'United sur ce match, elle était en grande difficulté dès qu'il fallait récupérer le ballon dans son camp.
Oui, c'est pour ça que t'as même pas besoin d'inventer quelque chose pour essayer de mettre la défense hors de position, parce que même bien positionnée, en fait, elle est
Non.
loin d'être infaillible. On enchaîne sur Ajax Real. Alors, t'as vu qu'une mi-temps, je crois que ça, t'as vu que la
Ouais,
première.
j'ai vu la première mi-temps, c'est ça.
Après, t'as quand même, je pense, une idée du scénario général, parce qu'en seconde, même si ça s'est légèrement inversé, enfin, c'était un peu moins marqué, ça restait quand même à peu près la même physionomie. Tiens, je vais te lancer d'ailleurs sur une question de Clément Taïbres qui nous demande, tactiquement, l'Ajax n'était-il pas clairement au-dessus du Real lors d'un match aller mal payé?
Oui, bah a priori, bon, comme je l'ai dit, j'ai pas vu la deuxième mi-temps, mais c'est vrai que sur la première, en tout cas, on arrive à 0-0 à la mi-temps, je sais même plus. Comment ça. On a tellement
Oui,
vu de trucs là cette semaine.
le 1-0 est à la 60e, hein,
Ouais,
donc
d'accord. Mais oui, il y a juste le but refusé de
Tagliafico.
Tagliafico, ouais, de la tête. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, il n'y a pas photo. L'Ajax arrive pas, le Real n'arrive pas à sortir, à se défaire du pressing. Et l'Ajax récupère beaucoup de ballons très haut dans la moitié de terrain du Real. Le problème de ces situations-là, en tout cas, moi, c'est la remarque que je me faisais sur le direct, sachant que je ne regardais pas le match de manière très attentive non plus. J'étais dehors. Mais en fait, je me disais que pour une telle débauche d'énergie, je trouvais qu'au final, il se crée assez peu de situations dangereuses sur les buts madrilènes. Alors, pour différentes raisons, et notamment le fait qu'un mec comme Ramos a pas mal écopé derrière, en écopant d'ailleurs d'un 4 sur 10 dans l'équipe le lendemain. Ça, c'est spécial. Mais oui, il y a ce volet-là. Je trouvais qu'il faisait un très bon match. Il se dépensait énormément. Il réussissait à gratter des ballons. Mais je trouvais qu'en termes d'occasion, ça ne se concrétisait pas forcément. Par contre, de notre côté, le fait de presser très haut, etc., alors qu'on avait pu voir une équipe en grande difficulté face au Feyenoord sur les transitions, ils ont encaissé très peu de transitions. Et donc, du coup, ils ont préservé leur cage en première période. Il y a juste Vinicius, je crois, à un moment donné, qui met une accélération et une frappe. Et je crois que c'est Onana qui la sort. C'est en début de partie. Et c'est là que mon pari s'est envolé, mon pari Vinicius buteur. Mon pari 3 buts de l'Ajax, on s'en est rapproché, mais bon. 3 buts du Real, pardon, on s'en est rapproché, mais finalement non. Donc c'est encore un 0 sur 2. Mais là, je m'égare, on en parlera plus tard de ça.
Justement, bon, moi, j'ai pas vu le match. Tu dis que ça faisait les choses bien, mais ça n'aboutissait pas sur des occasions.
Des occasions franches,
des situations. Quoi. C'est-à-dire, tu dis, ah, la balle est dans la bonne zone, maintenant, ouais. Il faut qu'il y ait le geste. Est-ce que c'est parce que le Real arrivait assez vite à se replier et à réagir à cette balle perdue? Est-ce que c'est l'Ajax qui faisait pas les bons choix ou simplement un manque de talent qui fait que, bah, mine de rien, c'est bien de se retrouver dans des positions de 1 contre 1 ou autre, mais si tu n'arrives pas à éliminer ton défenseur, et peut dire par exemple Ziyech Ramos, c'est sûr que c'est pas Ziyech contre un défenseur lambda de Redivisie, et ce qui fait que bah, tu te mets en bonne position, mais au bout d'un moment, il faut quand même réussir ton dribble, ta frappe ou autre pour concrétiser.
Ouais, mais t'as un peu donné toutes les raisons possibles, et il y avait un peu de tout ça, en fait, au final. En tout cas, moi, de ma position, qui, je le répète, n'était pas la position d'une personne ultra attentive sur le match, mais bon, voilà ce que j'en ai retenu. Mais oui, il y avait un peu de tout ça, quoi. Mais c'est vrai que le truc, c'est que maintenant, avec le match retour, dans une semaine, autant United, bon, ça devrait être réglé en faveur du PSG, autant ce match-là, le retour, sachant qu'en plus Sergio Ramos ne sera pas là.
Volontairement, a priori.
À suivre, parce que vu ce que l'Ajax a fait, ils savent comment collectivement ils peuvent gêner le Real. Après, le Real, je pense qu'ils savent aussi comment mieux faire par rapport à après ce qu'il s'est passé à l'Arena. Je vais réussir à parler, c'est un peu compliqué. Mais je pense que le match retour, par contre, peut être au moins aussi intéressant de l'aller. À mon avis, il y a toujours de la compétition sur cette double confrontation. Alors que je pensais vraiment sur la dynamique récente du Real qu'ils allaient pouvoir être vraiment un cran au-dessus et faire parler leur supériorité.
De toute façon, on sait a priori comment on va jouer l'Ajax. Oui. Et là, ce match-là, c'est la démonstration que le boulot du coach, il est plus ou moins parfait. Parce que si tu arrives à imposer ton modèle, après, ça dépend quand même des joueurs. Et là, il y a un écart intrinsèque sur à peu près tous les postes entre les joueurs de l'Ajax, en tout cas actuellement. On en reparlera peut-être dans quelques années sur certains jeunes et ceux du Real. Là, en gros, la stratégie de l'Ajax, c'est quoi? C'est de faire exactement la même chose au retour et espérer simplement que tu arrives à marquer, quoi.
Que tu convertisses en situation, que tu convertisses en occasion, et puis en but au final, quoi, ouais. Mais de toute façon, l'Ajax, en plus, c'est une équipe qui va très peu déroger à sa manière de jouer, de toute façon.
Déjà, historiquement, donc, parce que c'est pas forcément admis là-bas, et si tu gagnes en faisant de la mauvaise manière...
C'est ça, historiquement, et puis là, sur le match aller, le résultat leur donne pas raison, mais le contenu montre qu'ils étaient quand même sur une voie plutôt intéressante pour ennuyer ce Real, qui avait d'ailleurs été ennuyé aussi face à l'Atlético sur de rares séquences de pressing haut, avant finalement de faire la différence et de gagner assez facilement au final, 3-1 face à l'Atlético Madrid. Donc oui, il y a cette facette à creuser, ce pressing haut à conserver, et ensuite réussir à convertir. Mais voilà, si sur le match retour on part sur un Ajax qui va aussi fort mais qui arrive à marquer cette fois, ça peut devenir intéressant derrière. Attention toutefois, parce que si j'ai bien suivi et si j'ai bien lu Benzema après le match, lui aurait notamment dit que individuellement il était un petit peu passé à côté de sa soirée et qu'il savait maintenant ce qu'il devra faire au retour pour être meilleur et pour que du coup que l'équipe soit meilleure. Donc on aura peut-être aussi un Real qui sera plus préparé à faire face à ce genre de pressing et de voilà ce genre de pressing.
En tout cas, ça, ce que tu disais, ça me rappelait la phrase de Juan Manuel Lillo, un peu l'un des mentors de Guardiola, qui disait « L'être humain tend à vénérer ce qui a bien fini parce qu'il a été bien fait, on attaque ce qui a mal fini parce qu'il a été mal fait. » Et c'est vrai que là, pour le coup, bah, ça a été bien fait. Après, tu ne gagnes pas forcément les matchs, et encore plus au foot où c'est assez difficile, même s'il peut y avoir des surprises, d'effacer complètement le rapport de force individuel, parce qu'on voit que c'est à peu près toujours les mêmes clubs qui se qualifient pour les derniers tours de Ligue des Champions. Juste pour conclure sur ce match-là, ce que tu as vu du Real, et malgré tout cette capacité à gagner, est-ce que ça te fait jaillir l'idée
d'aller chercher une quatrième?
En tout cas, que le départ de Zidane et le départ de Ronaldo ont peut-être affaibli l'équipe sur plein de plans, et que ça explique aussi les difficultés en championnat, même si maintenant ça va mieux, mais que malgré tout tu peux quand même gagner la Ligue des Champions même sans Zidane, même sans Ronaldo, parce que t'as notamment cette culture de, entre guillemets, la victoire moche, en tout cas gagner même quand t'es dans un mauvais jour.
Oui, après face à l'Ajax ça passe, face à plus fort je suis moins convaincu que ça se passe aussi bien dans un mauvais jour pour eux. Ils l'ont montré en Liga sur certains matchs. Quand ça se passait mal, c'était, je crois que c'est face à Séville où ils prennent une petite claque, il me semble.
À l'aller, ouais.
Sur la pelouse de Séville. Et après, ouais, est-ce qu'il y a ce facteur un petit peu surnaturel du Real en Ligue des Champions? Est-ce que ça va se confirmer? Bon, on va voir avec le match retour. Mais faut se rappeler par exemple que avec ce fameux match face à la Juve où il gagne 3-0, c'est ça, 3-0 sur la pelouse de la Juve.
1-4.
Et ils en prennent, une volée au retour, et c'est Ronaldo qui 1-3, c'est Ronaldo qui met le penalty alors que le match partait en prolongation. Et donc cette situation-là, à voir si ça ne pourrait pas se reproduire, sur le match retour face à l'Ajax, puisque si l'Ajax fait le même match, ça va peut-être inverser pas mal de choses.
Moi, pendant ce temps-là, j'ai regardé Tottenham-Borussia. Alors, pour deux raisons. Un, parce que malgré tout, c'est deux équipes qui me plaisent plutôt, on va dire. En tout cas, j'aime bien le Borussia de cette saison. Tottenham, j'aime bien la philosophie de Pochettino. Alors, ça dépend des semaines sur les productions. Il y a quand même pas mal de matchs de championnat qui n'étaient pas incroyables. Mais en ce moment, alors à la fois le fait qu'il y ait Eriksen, c'est quand même l'une des raisons qui me font regarder cette équipe. Et Ken est un très bon joueur, mais c'est pas forcément lui qui va me donner envie de voir Tottenham. Par contre, Son, j'aime beaucoup. Là, il est sur des stats assez incroyables. Je crois que c'est 15 buts en 11 matchs, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment assez impressionnant. Et puis là, de le voir du coup sans Kane, ça le responsabilise et ça lui donne vraiment ce rôle d'attaquant. Il peut montrer tout ce qu'il sait faire et il se retrouve sur la finition, alors que sinon il peut avoir tendance à déférer un peu et à donner les ballons à Harry Kane. Et j'ai aussi regardé ce match parce que je sentais que ça allait mal finir pour l'Ajax de l'autre côté. J'avoue, là, très clairement, une nette préférence pour le style de l'Ajax par rapport à celui du Real, et je m'attendais à avoir le cœur brisé. Et je pense que la frustration qu'ont ressenti tous ceux qui ont aimé le jeu de l'Ajax sur ce match-là, je l'avais vu gros comme une maison, et je pense que ça m'aurait plombé ma soirée. Donc je suis content de ne pas l'avoir vu. Alors je le regarderai comme ça, à la fois par curiosité, mais puis aussi parce que c'est aussi un peu notre job pour le podcast d'en parler, notamment pour la préparation du match retour. Mais c'est vrai que là, on dirait tout à l'heure, on a enchaîné sur un déplacement à Rennes, donc on n'a pas eu beaucoup de temps libre. Mais pour revenir à ce match Tottenham-Borussia, alors victoire 3-0 de Tottenham, ce qui est intéressant à souligner, c'est que alors les trois buts de Tottenham sont en seconde période, et là pour le coup il y a vraiment une mi-temps pour Dortmund et une mi-temps pour Tottenham, mais la mi-temps pour Dortmund elle n'est pas écrasée, c'est-à-dire que autant la seconde période Tottenham est vraiment seul sur le terrain, autant la première, Dortmund est dans son match et se crée des situations de marquer, mais c'est pas non plus très net. Donc pourquoi est-ce que ça a basculé comme ça? Moi je vois vraiment un facteur clé qui peut paraître un peu tout bête, mais voilà, c'est la bataille du milieu et de l'entrejeu, parce que le Borussia joue quasiment tout le temps en bloc médian, c'est-à-dire si tu perds la balle sur une attaque, bah, tu vas faire du pressing à la perte classique, j'ai envie de dire, dans le football actuel, et encore plus pour les équipes de Bundesliga. Autant quand l'adversaire a la balle ou que tu as perdu la balle dans une zone où tu peux pas presser à la perte, ça va toujours rester en bloc médian. Et ce bloc médian à côté de Dortmund, il a deux fonctions. C'est-à-dire que soit, enfin, à la fois, tu récupères les ballons pour te lancer des attaques rapides, et puisque tu récupères la balle au milieu de terrain, bah, logiquement, la défense adverse t'offre de la profondeur pour toi partir de l'autre côté. Et en plus, ça te, tu dois absolument récupérer ces ballons-là, même simplement pour, entre guillemets, survivre, parce que ta défense n'est pas top-top. Et Dortmund ne va pas forcément aller presser, presser sans raison, comme peut le faire l'Ajax, qui va presser, même si tu construis bas, comme le Betis, comme d'autres, d'autres équipes, ça va souvent rester, rester au milieu. Et là, pour le coup, notamment en seconde période, Sissoko est monté en puissance, bon, Vertonghen jouait latéral gauche avancé, mais du coup, il était souvent un peu dans cette zone-là, à hauteur du bloc de Dortmund, et passait beaucoup plus facilement face à Hakimi, qui jouait pas du, du côté habituel, il jouait à droite, alors que d'habitude, il joue plutôt latéral gauche, même s'il peut occuper les deux postes. Et finalement, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que Dortmund n'est jamais sorti de son bloc médian, et en première, même s'il n'y a pas eu énormément de lancements de jeu en, en partant de cette situation-là, il y en avait quand même suffisamment pour espérer mener, mener a priori 1-0. Il y avait quand même plusieurs, plusieurs belles situations. Et là, c'est là aussi que l'absence de deux joueurs clés de l'équipe, à la fois Marco Reus pour animer les transitions, parce que c'est souvent lui qui fait les meilleurs choix de passe, et, enfin les choix de jeu de manière générale à haute vitesse, parce que c'est pas forcément facile. On voit beaucoup, notamment en Ligue 1, de 3 contre 3 à toute vitesse, mais qui sont un peu gaspillés, parce que c'est pas parce que tu as du champ devant toi, de l'espace, et que tu as des partenaires que tu vas forcément trouver, trouver la bonne solution, surtout à pleine vitesse, avec la perspective d'un but qui arrive. Et l'absence d'Alcacer aussi, le numéro 9, qui du coup te force à décaler Mario Götze et à mettre Götze en faux numéro 9. Et même si ça peut marcher, notamment en Bundesliga de temps en temps, on a vu à la fois en sélection au Mondial 2014, mais de manière générale, que déjà Götze n'est plus le joueur qu'il était, et puis c'est quand même un peu light, il faut vraiment qu'autour de lui, ce soit, les ailiers soient vraiment très bons. Sancho a bien commencé, il a un peu disparu par la suite, et Pulisic est en une nouvelle fois passé complètement à côté de son match, c'était beaucoup mieux à l'entrée de Guerreiro, qui était en remplaçant surprise. Mais donc voilà, c'est vraiment la bataille du milieu, et quand, quand tu récupérais le ballon, bah, tu pouvais assez vite partir en transition, et quand tu ne les récupérais pas, bah, c'est Tottenham qui avait la main mise, et le fait de marquer juste après le retour des vestiaires en seconde période fait que la dynamique s'est totalement inversée. Donc non seulement tu gagnais cette bataille-là, et Dortmund n'a jamais changé son plan de jeu, et en plus tu avais une espèce de confiance, de surconfiance qui fait que les actions que ratait Vertonghen en première période, il les a réussies en seconde. Après, le 3-0, il peut être sévère, pas forcément objectivement, mais dans la mesure où il y a deux buts qui arrivent dans les dernières minutes, donc ça aurait pu finir à 1-2, là le, c'est plutôt bien payé. Mais c'est le, enfin, je voyais une question de Despertivo qui me disait comment expliquer l'explosion de Dortmund en seconde période et globalement leur coup de moins bien avec 3 matchs de suite à 3 buts encaissés. Bah, il y a déjà les absences en défense, mais actuellement ce que je vois au-delà des limites tactiques, c'est le fait que tous les temps faibles sont sanctionnés cash et que contre Hoffenheim ça partait bien. Je sais pas, je crois que tu avais vu un bout du match, Florent, il me semble,
au c'est moins possible, les buts, ouais, mais,
Bah, ça fait, enfin, il y a 3-0 jusqu'à peut-être 20 minutes de la fin.
Ouais, c'est en un quart d'heure
qu'ils mettent ça, et Hoffenheim met les 3 buts, et c'est là que tu peux te poser la question, c'est pas forcément obligatoirement la bonne réponse, mais de, du manque d'expérience de l'équipe, parce que c'est quand même un effectif assez jeune. Et tu te rends compte que depuis le début de saison, tout tournait bien, donc il n'y avait pas besoin, entre guillemets, de taulier pour remobiliser, parce qu'il n'y a rien à remobiliser. Là, quand ça, ça tourne mal, bah, et, ok, il y a Witsel de l'année au milieu, mais c'est des bons joueurs, c'est pas non plus des joueurs ultra expérimentés et de ultra, ultra haut niveau.
Et puis il y a le petit danger quand, quand tu traverses un temps faible et que tu es une équipe de transition. Donc tu, en gros, tu vas attendre avec ton bloc médian, et à la récupération, en fait, là où dans des moments compliqués, il faudrait peut-être avoir plus de contrôle, Dortmund est peut-être une équipe qui va quand même essayer d'attaquer, de garder ses de continuer ses transitions, mais parce qu'elle traverse un temps faible, elle ne va pas réussir à les mener à terme, et du coup, ben, la balle revient, elle recommence à défendre, en fait. C'est peut-être ça le, c'est peut-être, bah, ça le souci.
Le truc, c'est que, ouais, en Bundesliga, tu peux parfois calmer ton temps faible en faisant tourner derrière, mais pas face à Tottenham qui va te harceler, oui, et qui, voilà, va presser, ouais, tout le temps haut. Donc au final, si tu t'achètes, entre guillemets, du temps gratuit, c'est si tu presses à la perte et qu'ensuite tu fais tourner derrière, etc. Le temps que Tottenham arrive, bon, c'est compliqué de presser sur 50 mètres comme des furieux pendant 90 minutes. Donc du coup, là, Tottenham va se mettre en défense placée. Toi, tu pourras faire tourner, récupérer un peu. Mais c'est vrai que là, c'est généralement le milieu à deux, Witsel de l'année, même si là, t'avais Daoud qui traînait dans cette zone-là. Et un milieu à deux, faut quand même être fort pour. Enfin, c'est plus un milieu de transition, les 4-2-3-1, que, ouais, que les milieux à 3 où tu peux faire des triangles et où tu peux conserver la possession. Donc a priori Tottenham très bien parti, mais bon, il y avait des absences des deux côtés, mais je pense quand même que les absences côté Dortmund étaient plus pénalisantes et que le rapport de force aurait été différent si Piszczek avait pu jouer, si Alcacer, si Reus avait pu jouer aussi. Tu aurais peut-être eu le même bonne première période, mauvaise deuxième. Mais avec Reus, je pense que tu mènes 1 ou 2-0.
Ouais, tu convertis.
Et du coup, tu perds peut-être que 3-2 ou ça fait 2-2. Mais du coup, tu sais pas un temps faible 20 pour toi et un temps fort 20 pour toi et un temps faible qui se paye cash. Voilà. Bon, on passe à notre périple.
Ouais, le périple rennais et la Ligue Europa, ouais.
Fin de la Ligue des Champions. Donc, comme je le disais, on parlera de la Roma et de Porto la prochaine fois. On va pas vous mentir, improviser une analyse à partir de résultats. Je veux dire que Zaniolo a marqué deux buts, que Zaniolo est un
merveilleux.
Et merveilleux, voilà, c'est un très bon jeune, profitons-en tant qu'il ne rate pas encore ses matchs. Donc Florent, nous sommes retrouvés du côté de Rennes, oui. Où déjà, petit disclaimer, nous avons raté deux buts, alors on les a rattrapés ensuite en vidéo, juste avant qu'on enregistre, même si on avait vu des bouts, puisque nous n'avons pas pu rentrer immédiatement dans le stade.
Oui, une aventure merveilleuse. Sachez qu'à Rennes, on tombe dans une faille spatio-temporelle qui nous ramène en 2006 ou 2005, où en gros, on ne peut pas scanner son ticket pour rentrer sur le terrain. On ne peut pas utiliser son téléphone en fait pour avoir un e-ticket. Quand vous achetez votre place sur les e-tickets, ben, en fait, vous allez aller au stade, vous montrez votre e-ticket, ils vont vous imprimer le billet. Et donc, il fallait faire la queue pour récupérer un vrai billet pour pouvoir le scanner et rentrer dans le stade. Ce qui fait qu'on a perdu, on a raté le premier quart d'heure à peu près, le temps de s'asseoir, etc. Donc on a raté tout simplement les deux buts rennais.
Ouais, et le temps fort rennais, voilà, c'est malheureusement, on a fait la queue dans une file où on pensait pouvoir passer. Au moment où c'était notre tour, on nous a indiqué que ce n'était absolument pas avec le téléphone qu'on pouvait passer. Donc on a fait une deuxième queue, puis une troisième fois la queue pour refaire la première queue. Donc Florent était à deux doigts de casser des choses et d'insulter toute la population rennaise. Il a quand même réussi à se calmer puisque nous sommes encore en vie.
En vie. On a passé une très bonne soirée après.
On a passé une très bonne soirée après. Alors on va le dire, on était quand même plutôt client du jeu du Bétis,
oui,
que celui de Rennes. Donc du coup, on n'a pas été déçus. Donc dans les tribunes, on était un peu minoritaire. Si on n'était pas non plus des Inchas venus avec nos banderoles à hurler, quoi. Voilà, on observait le spectacle. Alors déjà, le truc c'est qu'il y a il y a finalement deux parties au match. Donc la première, on l'a vu a posteriori, on l'a pas ressenti du stade, mais la partie favorable à Rennes, où il y a ces deux buts et ces actions converties, à l'échelle du match, elle est quand même ridicule en durée, quoi. C'est ça qu'il faut dire. Disons, c'est bien d'avoir eu ce temps fort, même s'il est pas non plus ultra fort.
Parce c'est pas non plus ultra fort. Ouais,
au milieu du temps fort, il y a quand même un petit temps faible, quoi. C'est ça qu'il faut noter.
C'est pas un temps ultra fort. C'est une période où en fait ils ont réussi à convertir en situation, en fait, à sortir le ballon. Et quand tu vois leur premier but, donc qui arrive au bout de 45-50 secondes, je crois, de match, tout démarre en fait d'une accélération de Ben Arfa qui met dans le vent, je crois que c'est Guardado, et il y a un des milieux aussi à côté, il met deux joueurs dans le vent en fait avec une feinte, et derrière en fait il n'y a plus de milieu de terrain côté sévillan, ils sont tous éliminés, il n'y a plus que la ligne défensive. Et la ligne défensive est prise, je crois que c'est Sidney qui joue le hors-jeu et Unou qui termine dans son dos et qui vient couper au deuxième poteau. Donc c'est vraiment le fait de réussir à convertir une semi-situation favorable, mais qui à chaque fois est lancée par Ben Arfa, comme un peu plus tard Ismail Assar est allé chercher le pénalty en fait. C'est vraiment des accélérations individuelles, des joueurs capables de sortir de la pression sur leur propre qualité, qui ont permis à Rennes d'approcher les buts et d'avoir des occasions. Et le problème, c'est que sur la durée, Ben Arfa a disparu en cours de première mi-temps. Déjà, il faisait plus grand chose, en tout cas avec la balle, parce que aussi il devait bosser défensivement. Et Ismail Assar, malheureusement, les Rennais l'ont perdu assez rapidement en deuxième mi-temps, ce qui fait qu'ils avaient très peu de solutions, voire quasiment plus de solutions pour pouvoir justement se défaire individuellement de ce pressing. Et ce qui fait qu'ils ont rendu énormément de ballons ensuite aux Sévillans, qui ont parfaitement su le garder, le conserver et construire derrière, quoi.
Ouais, parce que si tu pars du principe que Ben Arfa était pas cramé, mais que physiquement c'était plus compliqué, même passer déjà la demi-heure, on sentait qu'il avait perdu en explosivité, et que Sarr sort donc à la 49e remplacé par Bourigeaud. T'as plus ces joueurs de à la fois percussion, mais même premier dribble, ou quand t'as la pression qui arrive. Puisque dans tous les cas, t'as pas suffisamment de joueurs techniques pour t'en sortir par la passe avec 3-4 redoublements. Je me souviens une fois où ils l'ont fait, et à chaque fois on se dit, ah, ils vont la perdre, ah, ils vont la perdre. Et ils la perdent pas, mais pour ressortir d'une telle pression, faut faire. Alors, soit une première passe et un déplacement, et du coup, tu t'ouvres un peu le jeu, soit sinon, c'est 4, 5, 6 passes parfaites de suite, et là, genre, il y en avait 4, et la 5ème, un peu trop forte, et le ballon était perdu. Et ces joueurs-là qui, eux, peuvent mettre fin à ça tout seul. Bah on les a perdus. Donc là, du coup, Rennes n'avait plus vraiment de solution. En plus, ça, c'est un adversaire qui a quand même un profil très spécifique.
C'est bien résumé. À partir du moment où tu perds Ben Arfa et Sarr, ça devient très compliqué pour eux parce qu'ensuite, leur milieu, André, Grenier, ce ne sont pas des joueurs en plus qui ont l'habitude aussi de prendre ce genre de pression. Parce que, comme tu le dis, Séville est un adversaire très, très spécial. Et notamment en termes de pressing, je crois qu'ils sont deuxièmes derrière Eibar en Liga. Ils sont peut-être deuxièmes au niveau européen en termes d'intensité du pressing, le fameux PPDA. Et donc à ce niveau-là, c'est sûr que ne plus avoir ces joueurs capables d'absorber la pression et de te mettre le jeu à l'endroit, et voire même d'éliminer une ligne directement grâce à une première touche, grâce à un dribble, comme le fait Ben Arfa sur le premier but, comme je le disais tout à l'heure, et bien forcément les choses se compliquent énormément. Surtout qu'ensuite on parlera des séquences de possession avec Séville, mais en plus les Sévillans avaient aussi beaucoup d'atouts à faire valoir en phase offensive, quoi.
Ouais, c'est ça, le Betis est deuxième et plus très loin d'Eibar.
D'Eibar, ouais.
Donc, alors j'ai pas vérifié sur tous les championnats européens, mais en tout cas c'est une des meilleures valeurs européennes. Et c'est vrai que c'est on va dire que le Betis est extrême dans ses choix de jeu, et c'est des choix de jeu qui retrouvent très peu en Ligue 1, à la fois dans le fait d'assumer ça, de faire du pressing individuel quasiment sur tout le terrain, et puis deuxièmement d'avoir la possession de manière tellement calme que du coup c'est beaucoup plus facile d'avoir 75% de possession quand tu ne cherches pas forcément à faire des renversements de jeu qui sont des choix un peu plus risqués, ou à dribbler, mais que tu vas posément attaquer une zone par des petites passes, par des triangles. Si ça s'ouvre, c'est bien, sinon on va de l'autre côté. Ça, c'est, il faut à la fois le vouloir et aussi avoir les joueurs capables de le faire. Et c'est là qu'on a vu vraiment ce qui, à la fois les qualités, les défauts de cette équipe du Betis.
Ouais.
Alors, je trouve, moi, que Rennes s'est ouvert très facilement pour voir à peu près toutes les semaines le Betis en Liga. Les séquences de possession peuvent être, alors c'est encore plus visible par exemple face à l'Atlético, mais les séquences de possession peuvent sembler vaines. Et là, soit elles aboutissaient à quelque chose, soit même quand elles n'aboutissaient pas, c'était parce que on n'avait pas vu le partenaire ou autre, ouais. Mais le bloc rennais était quand même très souvent déstructuré.
Oui, le nombre de fois. En fait, ce qu'il a manqué, là, tu parlais à l'instant des changements de jeu, et auxquels on pourrait ajouter le fait d'avoir des joueurs capables d'attaquer la profondeur et d'avoir des ouvertures, parce que le nombre de fois, par exemple, où on a vu les Sévillans, enfin les joueurs du Bétis, on va éviter de dire Séville, hein, c'est ça.
Oui, parce que tu dis Séville pour le Bétis, ça va pas bien se passer.
Ça va mal se passer. Le nombre de fois où on a vu des joueurs du Bétis avec le ballon, on va dire dans la première moitié du camp rennais, en capacité de lever la tête et de mettre un ballon, parce qu'il n'était pas cadré, de mettre un ballon en profondeur dans le dos de la défense, soit pour l'attaquant, soit pour l'un des deux ailiers, enfin latéraux, mais au final qui était ailier. Il y a eu énormément de situations de ce genre tout au long du match, mais heureusement pour Rennes, c'est pas dans les habitudes du Bétis de sauter comme ça, ce genre de situation. C'est une équipe qui va garder la balle et qui va essayer de créer le décalage, mais vraiment le plus près possible du but adverse au final.
Et c'est-à-dire que d'un côté, tu peux dire c'est un choix de jeu assumé, de dire puisque le Bétis fait pas ça, du coup c'est logique que tu laisses, parce qu'il faut bien faire des choix de jeu au bout d'un moment. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que tu dis pas cadrer le porteur, ça veut dire tu peux laisser des joueurs libres, etc., mais t'essayes quand même un minimum de mettre le porteur de balle sous pression quand il est capable, parce que là tu es sur le poteau, je crois que c'est Lo Celso ou Canales, c'est Canales
qui fait Canales le poteau. C'est Canales sur ouverture de Sydney, je crois.
Ouais, et tu dis Sydney, alors bon joueur, mais tu dois jamais lui laisser ce temps-là, et tu dis si tu l'as pas laissé qu'à Sydney, donc s'il y avait eu plus de fois des tentatives comme ça en profondeur, même s'il n'y a pas un fort taux de réussite sur des passes comme ça, c'est quand même assez pas grave, mais c'est quand même assez dommageable à ce niveau de la compétition. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est le Rennes était très resserré dans l'axe justement parce que les plus grands talents adverses avec le ballon, c'est Carvalho, c'est Lo Celso, c'est Canales, qui font tous les trois une bonne saison, voire très bonne saison, chacun à leur échelle, et avec Lo Celso, enfin, on sait ce qu'il est capable de faire, mais Canales qui est vraiment en pleine renaissance. Donc, t'avais vraiment blindé l'axe et recentré tout le monde pour justement essayer de pas perdre cette bataille de l'axe. Et tu l'as quand même perdu. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, ouais, tu laissais les ailes libres par choix, parce qu'au bout d'un moment, soit t'es très déployé, mais du coup, tu peux perdre la balle, tu peux perdre les duels un peu partout, soit tu te recentres pour au moins gagner un peu cette bataille-là.
Pick your poison, comme ils disent aux États-Unis.
Donc là, t'as choisi ton poison, à savoir, bon, on se fera attaquer par les ailes, mais au moins au milieu, on sera en très grand nombre, on sera même souvent à 4 contre 3 pour essayer de gagner ça. Et mine de rien, t'as quand même perdu cette bataille-là, et de manière assez nette.
Ouais, à ce niveau-là, l'entrée de Lainez aussi a fait beaucoup de mal à Rennes. Dans le cœur du jeu. Après, le problème du Betis sur ce match, c'est que tout à l'heure, je parlais du fait qu'il manquait ces appels en profondeur, qu'on a vu beaucoup plus de la part de Canales en deuxième mi-temps qu'en première, où il était plus dans le contrôle au milieu. Mais le fait d'avoir perdu Firpo, qui était sans doute le seul joueur de ce profil-là capable de faire ses courses, ça évidemment, ça a pesé. Mais c'est vrai qu'ensuite, ils ont trouvé d'autres solutions. Avec Lainez, avec Canales, comme je le disais, sur la deuxième mi-temps, ils ont fini forcément par se mettre à l'endroit. Et même s'ils marquent sur deux coups de pied arrêtés au final pour revenir au score, il n'y avait quand même pas photo entre les deux équipes. À mon sens, il y avait au moins deux classes d'écart entre Rennes et ce Betis-là, quoi. Malgré le résultat final, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple sur Ajax-Real, donne pas forcément... Raison aux bêtises.
Et là où c'est amusant, c'est qu'on peut voir l'entrée de Lainez comme étant un peu le tournant du match, à la fois avec le petit ajustement tactique, le rôle endossé par Lainez au sein de cette équipe, mais alors que finalement il se fait aux dépens de Firpo, qui aurait pu aussi t'amener des choses.
Ouais.
Donc c'est alors t'as quand même eu l'apport de Lainez, mais je veux dire, je pense que le match aurait été ça se serait beaucoup moins bien passé pour Rennes, même si là tu peux dire que ça s'est pas finalement très bien passé. Si c'était pas Firpo, mais par exemple Guardado qui était sorti à la place de pour Lainez, si t'avais à la fois gardé Firpo et en plus eu Lainez entrant devant. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion pendant la rencontre. C'est alors il manque toujours des choses au Betis, mais c'est difficile de tout avoir. Tu peux pas à la fois avoir que si tu veux vraiment beaucoup de contrôle, c'est difficile d'avoir à la fois des joueurs de contrôle et des joueurs pouvant faire des différences individuelles et pouvant à la fois faire des renversements longs et pouvant à la fois attaquer la profondeur. Au bout d'un moment, t'as pas des joueurs qui sont capables de tout faire, ou alors c'est très très rare, et quand t'es le Betis, tu les as pas forcément. Donc eux, leur choix, c'est des joueurs de contrôle, voilà. Mais Lainez, moi j'avais vu sur ses premiers matchs, j'avais pas été 100% convaincu, parce que je le trouvais un peu light, et même c'est vrai que là, à l'épaule...
Ça s'est vu d'ailleurs.
Hein. Là, à l'épaule, tu vois que c'est pas... Il est neuf en Europe, même au football de haut niveau, il est encore jeune, donc il va s'étoffer, comprendre comment absorber les contacts ou autre. Mais il apporte cette variété cette variété de jeu, parce qu'il est capable de faire, notamment dans l'élimination individuelle.
À la première touche. Il est capable d'éliminer sur la première touche. Et c'est vrai que même dans les... Après, je m'écarte un peu, mais dans l'attitude, puisqu'on nous l'a présenté comme quelqu'un, le futur Messi mexicain ou des choses comme ça. Et c'est vrai que dans l'attitude avec le ballon, dans la gestuelle, il peut vraiment faire penser à Messi sur certaines situations. Même quand c'est juste un extérieur du pied donné de manière un peu nonchalante à un partenaire.
Il en fait beaucoup des extérieurs vraiment, du pied.
Ouais, il aime beaucoup, oui, c'est un petit peu son dribble d'ailleurs à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'il fait penser. Face à Rennes, il a quand même fait beaucoup de dégâts dans le petit jeu. Il est allé chercher pas mal de coups francs. Il va chercher d'ailleurs le coup franc du 2-2, du 3-2. Le but de Sydney, c'est le 3-2. Sur une action d'ailleurs où André peut aussi prendre son deuxième jaune et y échappe de manière assez miraculeuse, je trouve. Mais c'est vrai on sent qu'il a un truc, mais c'est vrai que quand tu le vois exploser à l'épaule à chaque fois qu'il y a un contact, tu te dis qu'il y a encore pas mal de boulot justement pour arriver à faire ce que fait Messi, qui à l'épaule est peut-être un des joueurs les plus difficiles à bouger aujourd'hui et sur les dernières saisons.
Moi, ce qui me plaît bien, au-delà de sa capacité à éliminer, où on voit qu'il est même meilleur si tu le colles vraiment que si tu lui laisses de l'espace pour prendre de la vitesse, parce que c'est souvent sur la première touche, le petit contrôle de l'extérieur, soit petit pont, soit grand pont, mais en tout cas toujours ce type de dribble où il est très efficace, c'est que le Betis, je pense, avait plus ou moins cherché ce profil, alors pas complètement, pas à l'identique, mais avec Inouï, Tu pouvais avoir ce joueur, alors c'était plus un peu systématique, on repique dans l'axe ou autre, mais avoir ce profil-là, et sauf qu'il nuit, bon, il s'est pas adapté, ça pouvait, enfin j'ai l'impression qu'il ne pouvait jouer qu'ailier en tout cas à ce niveau-là,
ouais, c'est ça.
et qu'au final, bah, le Betis joue sans réel ailier parce qu'il y a un piston dans le couloir et que Inui n'avait pas le volume, notamment défensif, pour faire ce travail-là. Alors que là, Lainez, on l'a vu à droite, on l'a vu à gauche, on l'a vu se recentrer, on l'a vu décrocher. C'est-à-dire que c'est un joueur d'élimination, mais c'est aussi un joueur complet qui peut combiner un peu partout sur le terrain et qui n'est pas cantonné à son côté droit et je fais mon petit dribble et puis basta, ça passe pas.
Ouais, c'est un joueur qui risque peut-être d'être testé latéral quand il faudra, enfin latéral dans une situation de domination, quand il faudra faire des différences en fin de partie, quand il faudra aller chercher un résultat. Mais c'est un joueur aussi qui, là, sur ce match-là, est rentré pour jouer à l'intérieur, généralement dans le half space. Parfois, il se retrouvait côté dans les situations où justement il combinait avec son latéral pour essayer de prendre la profondeur. Mais c'est peut-être un joueur aussi qui, avec sa vitesse, sera testé à un moment donné en pointe. Hein. En plus, ouais. Vu que le Betis a des problèmes aussi d'attaquant de pointe en ce moment, avec Loren qui un petit peu, est passé, on va dire, de manière très discrète dans ce match.
Un peu quand même meilleur que Ressé, peut-être.
Ouais, meilleur que Ressé, évidemment. Mais ouais, c'était quand même discret. Donc, il sera peut-être testé à tous ces postes-là. Et c'est forcément intéressant parce que c'est un joueur qui va être amené, je pense, à se développer avec Sétienne. Ça risque de devenir quelque chose de très intéressant sur la durée, quoi.
Puis moi, ce que j'aime bien dans son profil, c'est autant Vinicius... Tu vois déjà toutes ses qualités et il faut un peu compléter la panoplie, mais tu sais quel type de joueur ça peut devenir s'il se met à réussir toujours son dernier geste, que ce soit le centre, la frappe ou autre. Tu visualises quand même globalement le profil de ce type de joueur, un peu à la Dembélé, etc. Enfin, c'est dans les grandes lignes. Hein, mais... Alors que Lainez, tu disais, on ne sait pas encore totalement ce que c'est. C'est-à-dire qu'il peut évoluer de plein de manières. Est-ce que ça va devenir une espèce de neuf à la Benzema qui va beaucoup faire jouer ses partenaires, mais qui pourrait assumer seul ce rôle? Là, il a déjà été deuxième attaquant. Là, même, tu peux estimer qu'il était deuxième attaquant.
Oui, quasiment,
sur ce match-là, même si c'est... Enfin, en gros, la manière dont joue le Betis, c'est pas aussi marqué que si t'étais une équipe de contre, deuxième attaquant. Joaquin a souvent joué à ce poste-là, alors que pourtant, il n'a pas forcément des caractéristiques d'attaquant. Mais disons, tu peux, chaque semaine, tu peux découvrir une nouvelle facette, et je veux dire... Alors, je pense pas, mais dans l'absolu, tu le verras peut-être à un moment numéro 8 ou autre. Enfin,
Lo Celso et Canales.
C'est ça, tu peux imaginer pas mal de choses dans une équipe qui, comme ça. Enfin, en fait, on parle surtout du Betis, mais c'est. Je crois que c'est quelqu'un sur Twitter ou autre qui nous disait que. Oui, quelqu'un qui voulait nous rencontrer, mais qui a eu un petit problème, qui n'a pas pu faire l'after après match avec nous, mais qui nous disait qu'en gros, il n'avait pas vraiment vu Rennes jouer, quoi. Et c'est vrai que. Qu'est-ce que tu veux dire sur le match rennais? Je pense qu'il y a pas mal de, enfin, il y a des supporters rennais qui nous écoutent ou qui ont ce tropisme, qui veulent savoir ce qu'a fait le club français qui reste dans la compétition. Et c'est difficile parce que Rennes a fait quasiment que subir. Et je sais même pas. Enfin, je pense que le plan de Stéphane, il est réactif, mais tant qu'il a les joueurs pour le faire. Là, on avait une question de Jérémy qui nous demandait quoi penser du match de Ben Arfa et du match de Rennes.
On en a parlé un peu.
T'es dans la réaction tant que tu peux et d'essayer de prendre ce qu'on te donne et de...
En fait, on parle très peu de Rennes parce que le Betis a tellement été protagoniste du match, que ce soit au début, sur les choses qu'ils n'ont pas réussi à bien faire. Parce que Rennes va marquer sur une situation, en tout cas le but dans le jeu, sur un pressing manqué du Betis. Donc avec Ben Arfa qui élimine. Rennes a été, comme tu disais, plus dans la réaction que dans l'action sur ce match. Et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup plus du Betis, de ses qualités, mais aussi des défauts qu'on a pu voir depuis le stade, que Rennes, qui au final était juste là pour répondre au Betis, mais n'était pas forcément en mode, on va dire, actif sur le... Ne décidait pas du scénario du match, en fait. C'est vraiment le Betis qui, par ses qualités et ses défauts, a fait cette rencontre. Et, parce que, tu vois, quand on arrive... et qu'il y a 2-0, on se demande un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, etc., pour être dans cette situation-là après 10 minutes, parce que d'habitude, le Betis, c'est pas une équipe qui a l'habitude, justement, de...
Bah, il y a très peu de gros scores. Hein,
oui, il y a très peu de gros scores avec eux. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, quand on regarde, au bout de 5 minutes, on regarde ce qui se passe, et on se dit, la physionomie du match, c'est celle qu'on attendait, avec un Betis qui a la balle et qui déroule, et puis Rennes qui essaie de défendre. Mais ouais, il y a déjà 2-0 à ce moment-là, quoi.
Est-ce que tu imagines que Julien Stéphan pourra faire autre chose au retour? Parce que moi, clairement, j'ai du mal à lui reprocher quoi que ce soit. Je pense que son plan de jeu est totalement valable à partir du moment où il a notamment Sarr. Et qu'ensuite, en plus, enfin, vu l'effectif qu'il a, je ne vais pas te citer le banc, mais là, les trois entrants, c'est Bourigeaud, Gélin, Ben Sebaïni. Les autres, enfin, si je vais te les citer d'ailleurs, Mounir Badiachile, mais c'est gardien. L'Oriente, je ne sais pas, Niamsi, Del Castillo.
Ouais.
C'est-à-dire que le personnel à disposition te limite quand même. On en parle notamment avec Marcus sur le côté. Ben, enfin, c'est bien de parler tactique, tout ça, mais à un moment, il y a aussi la gestion humaine et tu peux pas non plus. Parfois, tu es obligé de faire au mieux. Là, je pense qu'il aurait peut-être aimé être plus protagoniste, mais vu la physionomie de la rencontre et même pour le retour, après, je ne sais pas où en sont les blessés, les retours, tout ça, mais j'imagine pas Rennes dans ses capacités, ses facultés actuelles, capable de jouer les yeux dans les yeux, même un petit peu avec le Bétis. Et je pense que ta seule solution, ça sera de faire bah, comme en début de match, d'espérer que la volonté un peu ambitieuse de jeu du Bétis fera que cette équipe va se
De toute
découvrir
façon,
et.
sans avoir de joueurs pour sortir du pressing individuellement, ils ne pourront
Oui,
pas.
il n'y a pas de plan qui permet de transcender la qualité individuelle dans
Ce
cette
sera
situation.
certainement très très compliqué. Donc, Sarr, il faudra espérer qu'il soit remis, puisqu'il est sorti quand même sur blessure. Et je me demande si ce n'est pas après le contact avec Guardado, parce qu'il sort assez vite au final,
Ouais, et puis il reste très longtemps au sol.
en début de deuxième mi-temps. Donc, lui déjà sera indispensable sur le retour. Mais ce qui est terrible en fait sur ce match, c'est que quand on est arrivé à 2-0 et qu'on a vu, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les 5-10 minutes, les 5-10 minutes où Séville avait le contrôle du ballon et puis voilà, contrôlé, etc. On se disait déjà, mais ils vont revenir, ils vont forcément revenir, ils vont avoir les occasions, ils vont finir par revenir au score et peut-être même s'imposer. Je crois au moment où il y a 2-0 et au bout de 10 minutes, on dit bah ils vont gagner 3-2 ou quelque chose comme ça, je crois. Finalement, le penalty de Sarr nous met un peu dedans, mais à 3-1, on se dit aussi ils vont revenir à 3-3. Enfin, ils vont forcément revenir dans ce match parce qu'ils dominaient tellement, on voyait tellement d'espace, etc. Mais c'est vrai qu'en face, Rennes, bah, à partir du moment où Ben Arfa a disparu et où Sarr est sorti, parce que Sarr, pour le coup, sur le début de match, quand il part balle au pied, il peut faire. Je pense qu'à lui seul, il est capable de faire exploser la ligne défensive de Séville. Voilà, sans eux, ça va être, c'est quasiment mission impossible parce qu'au match retour, Séville va dérouler le même football et Séville aura la même capacité à se créer des situations, à se créer des occasions. Donc ça sera forcément compliqué pour les Rennais parce que défensivement, je vois pas comment ils pourraient, enfin ce qu'ils pourraient faire de plus. À part peut-être mieux gérer la profondeur, mais on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, Séville n'est pas non plus une équipe qui a beaucoup appuyé sur ce domaine-là, quoi.
Moi, enfin, le seul axe d'amélioration que je vois, c'est de mieux, c'est-à-dire d'être plus en bloc. Parce que là, en fait, t'étais en bloc, mais il y avait quand même des failles. C'était assez facile de déstructurer ce milieu de terrain, notamment l'entrejeu. Et je pense que tu peux jouer de la même façon, mais malgré tout, être plus compact. Et je pense que là, c'est même pas une question de consignes ou de manque on va dire d'envie des joueurs ou autre, parce que très clairement c'est un match très important dans l'histoire du club. Je pense que le problème de Rennes, c'est que t'affrontes très peu d'adversaires qui font autant tourner la balle et tu te retrouves face à un problème qui se pose très rarement en championnat. Et je pense que d'avoir un 4-4-2 par exemple, hein, d'avoir un 4-4-2 à la Rigosaki ou à l'Atletico ou autre, où vraiment tu as toujours les mêmes espaces, les mêmes distances entre les joueurs, entre les lignes, quelque chose de très compact, je pense que c'est très difficile. Autant en bloc bas, bah, mécaniquement, puisque tu es replié sur ton but, ça va. Mais quand tu es en bloc médian, il faut quand même pour moi une habitude de défendre comme ça. Quand tu es face à une équipe qui va faire tourner à droite, à gauche, à droite, à gauche, sans grand changement, mais avec malgré tout des dédoublements, des gens qui dézonent et qui du coup ouvrent des espaces. Et peut-être que cette expérience-là, alors tu vas plus retrouver d'adversaire comme ça en championnat, mais peut-être que cette expérience-là fera qu'au retour, tu seras un peu mieux prêt et qu'avec les mêmes principes, ben simplement les joueurs seront. Il y aura un peu moins de distance entre les lignes au retour. Tu n'as rien à rajouter?
Non,
tu
je, d'accord rien avec... à... je n'ai rien à rajouter.
Je voyais que tu opinais du chef. On va s'arrêter là pour cette semaine. Enfin, pour cette semaine, non, pas pour cette semaine, mais pour cette semaine européenne, pas pour cet épisode, puisqu'on va passer au Paris. Le Paris avec notre partenaire historique que l'on salue, PMU.fr. Alors, deux paris chacun, comme la fois dernière, parce que Raphaël n'est pas là. Je vais commencer. Je te laisserai le soin de conclure cet épisode, alors que nous sommes devant la télé, devant ce magnifique Nîmes-Dijon, qui est assez particulier. C'est assez difficile de se concentrer sur le podcast quand on voit certaines actions, notamment dijonnaises. Alors moi, j'ai deux paris. Oui, le premier, c'est Spal-Fiorentina, et c'est la Fiorentina avec plus d'un but d'écart, donc c'est-à-dire Fio moins 1. Côté à 4, alors l'hésitation de ma part, c'était pas sur la victoire de la FIO, c'était sur l'écart. Parce que je me disais, est-ce que je joue la sûreté, même s'il n'y a jamais de sûreté, surtout quand ça concerne mes paris qui ne sont pas toujours d'une fiabilité incroyable, mais en jouant la victoire de la FIO qui doit être à 2-10, je crois, quelque chose comme ça. Et là, je me dis que la. Alors, pas forcément sur l'historique récent de la Fiorentina qui a du mal à gagner. Alors, il y avait bien sûr, il y a eu le 7-1 contre la Roma qui bonifie ça, mais c'est vrai que sur les dernières rencontres, il y a pas mal de matchs nuls et très peu de victoires avec plus d'un but d'écart. Mais l'adversaire, la Spal, qui perd rarement lourdement, mais qui perd quand même pas mal de matchs, là, qui a 22 points en 23 rencontres, et qui a eu une série très difficile en automne et jusqu'à la nouvelle année. Je me dis que la Fiorentina peut gagner avec plus d'un but d'écart. Alors, mon argumentation principale repose sur les joueurs offensifs de la FIO. Parce que je pense que la Spal, malgré tout, peut marquer des buts. Alors, il y a un joueur que j'aime bien là-bas, c'est Petagna, qui a 23 ans, qui en fait 38, on dirait un peu Diego Costa.
Oui, c'est un temps, costaud, l'avant-centre. Ouais.
Lui, je pense qu'il n'y a pas que la muscu. Je pense que déjà, de base, il avait une bonne constitution. Parce que sinon, à son âge, être aussi lourd et massif, c'est pas facile, c'est un peu un de son gars. Mais c'est l'attaque de la FIO avec alors Muriel qui a légèrement freiné après ses très bons premiers matchs.
Et un but fou.
Où il était un ou deux buts fous même. Ouais. Mais Chiesa, ça va mieux. Simeone, c'est pas encore parfait, mais je trouve qu'il y a du mieux quand je le vois. Alors bon, Piazza, je pense qu'on va oublier ce joueur. Mais je pense que la force de frappe offensive de la Fiorentina fait que tu peux marquer. Tu peux marquer 2-3-4 buts à la Spal, en tout cas je le sens bien comme ça. Donc victoire de la FIO avec un but d'écart. Ce match, il me semble, est dimanche. Ah oui, c'est le match de dimanche à midi et demi. Donc nos amis asiatiques vont pouvoir se régaler. Toujours un très bon choix des matchs du midi pour le prime time asiatique. Et ma deuxième rencontre, je vais repartir en Ligue 1, où je n'ai jamais eu beaucoup de succès, mais où. Championnat que j'ai un peu tendance à oublier. Alors là, c'est un pari... comment dire? C'est un pari qui... un peu sûreté. Parce que, vu les deux équipes, ça semble... alors, pas évident, mais en tout cas, ça semble très probable. C'est le 0-0 à la mi-temps entre Caen et Strasbourg, côté à 2-10. qui est plus lié à Caen qu'à Strasbourg, pour le coup. C'est pour ça que je disais, faut que je nuance, parce que c'est pas... ce ne sont pas deux équipes qui font que des résultats très négatifs, parce que Strasbourg est sur une série de matchs avec un but marqué, je crois. Genre, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est une bonne quinzaine de matchs où Strasbourg marque dans toutes les rencontres. Donc tu peux te dire, ah oui, mais Strasbourg est une équipe, peut-être pas offensive, mais en tout cas qui est capable d'offrir des matchs avec des buts. Sauf que déjà là, c'est une seule variable, c'est le score à la mi-temps, et il y a souvent quand même plus de buts en seconde période qu'en première. Et deuxièmement, c'est face à Caen. Caen qui en 24 matchs a marqué 20 buts et en a pris 33. Ce qui pour le coup dit qu'effectivement l'attaque caennaise ne marque pas beaucoup, moins d'un but par match. Mais 33 buts encaissés, c'est finalement pas tellement pour une équipe comme Caen. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de défaites, je veux dire, même contre Marseille, alors que de mémoire le but est juste avant la mi-temps, je veux dire, même contre Marseille, Caen ne s'écroule pas et les défaites caennaises sont assez souvent logiques. Assez souvent aussi le résultat d'un manque de qualité, mais la construction est de plus en plus par la défense. Et là, le coach Fabien Mercadal, pour l'instant, le coach, je pense que ce n'est pas parti pour durer. Mais le coach a fait des déclarations récemment où il avait dit oui, on va passer en mode guerrier, etc. On va remiser nos ambitions, faut qu'on se recentre sur l'essentiel, etc. Je pense qu'il surestimait peut-être un petit peu la qualité de jeu de son équipe, qui ne ferait pas non plus des choses incroyables. Mais moi, ce que j'interprète de ça, c'est qu'on va vraiment d'abord garder notre but et ensuite ensuite marqué, mais avoir un jeu très peu expansif. Et je pense que face à Strasbourg, qui profite plus de ce que donne l'adversaire que lui-même de créer à partir de rien et qui affronte finalement pas tellement de blocs regroupés, je pense que ça va être assez calme. Et donc je vois bien, en plus match du dimanche 15h, je sais pas pourquoi, mais je les sens assez moyennement les premières mi-temps de ces matchs-là sous la chaleur, j'imagine, parce qu'il fait chaud, en ce vendredi soir où on enregistre, donc je pense qu'il fera encore, beau ce week-end. Donc voilà, un petit 0-0 à la mi-temps, puis en plus c'est Paris que j'aime bien, puisque au moins tu es assez vite fixé sur la réussite ou non de l'entreprise, et puis si un but au bout de 10 minutes, bah, tu peux partir faire autre chose.
Puis si tu gagnes, tu peux le rejouer sur la deuxième mi-temps.
Voilà, c'est ça. S'il n'y a vraiment aucune occasion et que Malik Tchokounté n'arrive pas à faire exploser la défense strasbourgeoise, tu peux te dire qu'il y aura un 0-0 en fin de match. Florent, le Bordelais.
Dimanche 15h aussi. C'est
dimanche 15h, il y a Bordeaux-Toulouse.
C'est Bordeaux-Toulouse.
La rivalité locale.
Oui, la rivalité toujours que d'un côté en général, mais bref. Oui, donc Bordeaux.
J'aime bien te lancer sur ça parce que je me doute de la réponse. On salue nos amis toulousains. Et donc, je vais spoiler ton pari, c'est plus de 2,5 buts côté à 2,20.
Ouais, alors c'est un petit peu le match. C'est un peu l'opposé quoi, qu'on pourrait imaginer. Bordeaux-Toulouse, on peut s'imaginer un match assez ennuyeux sur le papier. Mais je sais pas pourquoi. Là, j'ai du mal à l'expliquer, c'est juste une impression comme ça. Mais je me dis que ce match-là va peut-être être plus ouvert que ce qu'on peut imaginer. Parce que Bordeaux doit changer des choses. Après une très mauvaise série à l'extérieur, puisqu'ils ont perdu face à Strasbourg deux fois, puis face à Marseille, puis face au PSG la semaine dernière, dans un match assez ridicule de leur part sur le plan technique, notamment offensivement. Donc ils sont en quête, on va dire, de rédemption. Il faut qu'ils se rattrapent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et il faut surtout qu'ils proposent du spectacle aussi au public du stade, qui au final n'est pas allé au stade depuis un mois quasiment, parce que Bordeaux a ses 4 ou 5 derniers matchs à chaque fois à l'extérieur, à chaque fois. Pourquoi je dis à chaque fois deux fois d'ailleurs? Bref,
je dis à chaque fois.
Ouais, c'est difficile aujourd'hui, mais du coup je pense que dans ce match là en effet c'est un match qui peut amener des buts. Il y a le côté derby, on sait que côté toulousain il y a toujours pas mal d'engagement dans ces matchs, et ils essaient en tout cas de mettre pas mal d'intensité. Et je me dis que face à Bordeaux, ça peut partir, alors qu'il y a un très joli but. Donc on va être obligé de s'exclamer sur ce but de Bobichon, avec un Christophe qui est en train de zouker, vu qu'il est dans son équipe, mon petit gazon. Mais revenons au Paris. Mais revenons au Paris avec donc oui, Bordeaux-Toulouse. Je pense que Bordeaux va être un peu plus expansif, parce que Bordeaux aussi va intégrer ses recrues. A priori, le jeune anglais Maja devrait débuter la rencontre, ou au moins la jouer. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'il peut former sur le papier une attaque plutôt intéressante avec Briand à côté, à défaut évidemment d'avoir mieux. Mais même, c'est un joueur qui pourrait être Cornelius compatible, de la même façon avec le schéma habituel du grand qui dévie pour le petit qui se rend disponible et qui fait les appels en profondeur. Et ensuite, certes, il n'y aura pas Kalou, qui à mon sens est le meilleur de la KKK avec Camano et Caramo, mais il y aura peut-être le retour de Caramo justement dans le groupe, qui a été mis à pied, qui va lui aussi peut-être avoir envie de se rattraper. Donc je me dis qu'il y a pas mal d'arguments. Et en face, Toulouse est une équipe qui, même si elle a du mal à produire des choses sur la durée, une équipe qui peut avoir des fulgurances de temps en temps avec des joueurs comme Gradel, un joueur comme Durmaz aussi dans le milieu dernièrement. C'est une équipe qui peut aussi être très dangereuse sur coup de pied arrêté, parce qu'ils ont beaucoup d'arguments et de joueurs qui sont très grand, au-dessus du 1m90. Donc pour toutes ces raisons-là, je me dis que sans m'enflammer, on peut avoir un match avec plus de 2,5 buts. Et la cote donc à 2,20 me paraît plutôt intéressante. Voilà.
Autre cote à 2,20, autre match du championnat de France également, Reims-Rennes. Je regarde l'heure, c'est à 17h, donc c'est dans la foulée. Ouais. On sera tous mobilisés entre midi et 18h sur les résultats de nos paris. Reims-Rennes, c'est Reims qui ne prend pas de but, donc également à 2,20. Pourquoi ?
Oui, ben, là on vient de parler de Rennes, on vient de parler d'un match compliqué qu'ils ont eu à jouer face au Bétis. En face, Reims c'est une équipe qui défend plutôt bien depuis le début de la saison, même s'il me semble que sur ses derniers résultats, il faudrait qu'elle se rattrape un petit peu devant son public. Et du coup, sur ce match-là, à vrai dire, c'est surtout en surfant sur la dynamique de Rennes et ce qu'ils nous ont montré face au Bétis, c'est en voyant aussi les difficultés de Ben Arfa dans ce match-là face au Betis pour être bon sur plus d'une demi-heure. C'est aussi la sortie sur blessure de Sarr qui fait que j'imagine qu'il sera peut-être préservé lors du match de ce week-end parce qu'ils en auront absolument besoin s'ils veulent faire quelque chose face au Betis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc pour toutes ces raisons-là, je me dis que on est sur un match qui peut démarrer sur un rythme assez calme, en tout cas côté Rennais, et qui du coup permettrait à Reims peut-être de traverser la rencontre sans prendre de but et de réussir leur premier clean sheet depuis pas mal de temps. J'essaie de me remettre les stats sous les yeux. Bon, ça fait pas si longtemps, mais voilà, ils ont gagné 1-0 face à Guingamp fin janvier. Mais c'est vrai que généralement, ces derniers temps, ils prennent souvent des buts, au moins un but depuis la rentrée, en fait, depuis la reprise de janvier. Et je me dis que là, face à un adversaire qui va peut-être avoir déjà en tête le match à venir face au Betis, le match retour, bah, ils vont peut-être avoir l'occasion de réaliser au moins une clean sheet. Et je ne serais pas surpris aussi que Rennes, si on leur dit que dès aujourd'hui qu'ils vont chercher un 0-0 à Reims, je pense qu'ils prennent en pensant déjà au match de jeudi prochain. Quoi.
Et c'est vrai que 3 jours après avoir couru après le ballon, comme presque jamais récemment, et qu'en plus l'intensité de la Coupe d'Europe, etc., c'est vrai que je sais pas, il y a quand même pas mal d'historiques d'équipes qui sont incapables de mettre la même intensité 3 jours après. Ouais. Donc qui plus est face à une équipe très compétente défensivement, ça voilà. Peut. Tu peux vite être.
Quand on ajoute tout ça avec le calendrier, etc., on se dit que les Rémois ont peut-être un bon petit coup à faire, parce qu'en plus ce sont deux concurrents directs, hein, ce sont deux équipes qui se suivent, je crois, au classement, qui sont assez proches l'une de l'autre en tout cas.
Rennes est 8e et Reims 10e avec un point d'écart.
Ouais, ben voilà. Donc les Rémois ont peut-être un coup à jouer, parce que c'est vrai que les Rennais, je pense, sont sortis de ce match aller face au Betis avec pas mal de poids dans les jambes. Quoi. Voilà.
Merci Florent.
Eh bien, de rien, Christophe.
Nous allons rendre l'antenne. Nous allons partir nous balader dans la ville lilloise. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore exactement la date. Il y a un débat en interne sur le jour.
Est-ce qu'on le fera avant la Ligue des Champions ou après la Ligue des Champions? Enfin, est-ce qu'on le fera le lundi ou le mardi après le match? Voilà, tout dépend de ce choix-là. Mais pour l'instant, il n'est pas fait, donc on verra. En tout cas, vous aurez toujours deux podcasts la semaine prochaine. Puisque c'est une semaine de Coupe d'Europe.
Voilà, donc on ne vous abandonne absolument pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à réécouter les derniers. Enfin, à écouter les derniers, si vous ne les avez pas écoutés, vous pouvez les réécouter. Hein, mais voilà. Donc il y a notamment l'interview de Marcus, il y avait la présentation des huitièmes de finale, que là, pour le coup, vous pouvez réécouter pour vous mettre à jour.
Avant, pour rigoler.
Voilà, pour rigoler pour les matchs qui sont déjà joués, et puis pour vous mettre à jour et préparer ceux qui vont se jouer cette semaine, enfin la semaine à venir. On est encore dispo sur toutes les plateformes possibles et imaginables, sur vuduban.fr, même s'il faudrait qu'on mette à jour les derniers épisodes, mais il y a quand même le récapitulatif de tous les endroits où on peut nous retrouver. N'oubliez pas de mettre le code VDB en code promo si vous allez jouer chez notre partenaire PMU.fr, soit nos paris, soit l'inverse de nous. Et on se dit à très vite.
Salut.
Cordialement.
Vous pensez avoir tout compris ? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.